Mon travail d'ergonome, en tout cas avec la formation que j'avais eue et la sensibilité que j'avais, était surtout orienté aussi sur des questions d'organisation et puis de valorisation du contenu du travail et des postes. Donc je travaillais en règle générale sur l'ensemble des aspects, sachant que j'étais amené parfois à expliquer et à démontrer que certes, si les conditions matérielles et physiques de travail sont importantes et peuvent être source, de nuisances, ce qui est quand même essentiel dans le travail, c'est la richesse du travail qu'on a, la reconnaissance que l'on a, la qualité du contenu du travail que l'on a, et donc les modes d'organisation, les modes de management, etc. Et donc voilà, l'entrée était souvent par les aspects matériels et physiques, physiologiques, mais moi, en ce qui concerne mon ambition, était toujours d'aller plus loin et de faire la démonstration que le bien-être au travail, c'est un tout. Et ça ne peut pas se réduire à avoir une bonne chaise, de travailler dans le confort thermique, etc. C'est aussi être reconnu, avoir un travail de qualité dans lequel on se réalise.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Roger Abalin, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer notre interview, je vous poserai une première question qui est toute simple. Quand entrez-vous à l'Arsenal et combien de temps y passez-vous ?
Je suis entré à l'école des apprentis de l'Arsenal, aux Arpètes, en 1964, septembre 64, directement en deuxième année. C'était une option, normalement c'était 3 ans. Moi je suis rentré directement en deuxième année. Et puis en fait j'ai fait toute ma carrière à la DCAN d'abord, puis à la DCN. Et donc j'ai quitté en 2000 dans le cadre d'un plan de restructuration de la DCN en fait, et de la Direction Générale de l'Armement qui nous a permis, et effectivement aujourd'hui ça fait un peu étonnant de le dire, mais qui nous a permis, en ce qui me concerne, de faire valoir mes droits à la retraite à 52 ans. Il se trouve que moi j'étais dans un cycle scolaire qui n'était pas du tout technique, puisque je faisais des études classiques dans un lycée privé dans les Côtes d'Armor, où je faisais du latin, du grec jusqu'à la seconde. Mais bon, période d'adolescence, un petit peu marre de l'école, etc. Je me retrouve tout d'un coup à arrêter mes études et puis finalement à postuler sur un certain nombre de concours, dont celui d'entrer à l'Arsenal, auquel fois j'ai été reçu, comme à d'autres, mais en fait j'ai fait le choix de l'Arsenal parce que c'était en proximité, j'étais brestois, j'habitais au bout du pont de l'Arteloire et l'école des apprentis était de l'autre côté du pont de l'Arteloire, voilà. Ça s'est fait comme ça et puis par atavisme un peu, mon père avait déjà eu l'occasion de travailler à l'Arsenal, il n'était pas resté mais il avait eu l'occasion de le faire. On connaissait beaucoup de monde qui y travaillait, voilà. Il y avait à l'époque la possibilité de prolonger après les apprentis, de prolonger par des études qui permettaient de préparer le concours d'entrée aux écoles techniques de la marine, aujourd'hui l'ENSIETA. Ou l'ENSTA maintenant d'ailleurs, c'est plus l'ENSIETA, c'est l'ENSTA. Et donc j'ai commencé par prolonger les Arpètes par un trimestre aux écoles préparatoires à l'ENSIETA de l'époque. Et il y avait un système de sélection qui fait qu'au premier trimestre, j'ai pas pu poursuivre. Et je me suis retrouvé affecté ici, à l'atelier des machines. Dans la nef ajustage qui est la nef où se trouve actuellement le canot de l'empereur.
Et donc vous allez exercer pendant 20 ans comme ergonome au sein de l'Arsenal. Comment est-ce que vous en arrivez à devenir ergonome à l'Arsenal ?
Eh ben, justement, je crois que mon histoire est un peu pas représentative, mais en tout cas, elle illustre assez bien ce que l'Arsenal à l'époque permettait en termes de promotion sociale. Parce que, bon, après avoir été affecté ici à l'atelier des machines, je ne suis pas resté trop longtemps, j'ai à nouveau replongé dans le cycle des écoles préparatoires, puis une année à l'école technique, et bon, à nouveau un échec. Je ne devais pas être très, très, très doué pour prolonger mes études à l'époque. Et je me suis retrouvé affecté au service informatique, qui était un service qui démarrait. Puisque c'était dans les années 69-70, on était vraiment dans les balbutiements de l'informatique. Et j'ai fait 10 ans en service informatique. Ça ne me plaisait pas trop, en fait, parce que j'en reviens un peu à ma formation initiale. J'étais un littéraire plutôt humaniste que technicien et que technique. Et donc, au bout de 10 ans dans l'informatique, je me suis réinterrogé et puis je me suis dit non, c'est pas encore fait pour moi. Et là, j'ai saisi une opportunité d'une affectation au service hygiène, sécurité, conditions de travail. Et j'ai un peu poussé les portes, si je puis dire, c'est au propre et au figuré, poussé les portes pour essayer de m'orienter vers une voie un peu nouvelle à l'époque, l'ergonomie. On en entendait très peu parler. Et bien justement, l'Arsenal permettait ça. Permettait que des gens qui avaient des envies puissent les exprimer et parfois leur donner suite.
Alors en fait, la problématique ici, hein, c'est vraiment l'impact du travail des agents sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est tout ce qui regroupe les cervicalgies, les tendinites, épaules, coudes, poignets, problèmes de dos également. Donc j'essaye en fait de repérer ce qui dans le travail, aussi bien au niveau technique que l'organisation, peut générer des TMS, donc des maladies professionnelles pour les personnels.
L'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme. Mais une fois qu'on a dit ça, l'ergonomie, ça recouvre des pratiques très très différentes. D'abord, ça a vocation à intervenir sur tous les terrains de travail. Donc le travail, il y a le travail administratif, il y a le travail dans les hôpitaux, il y a le travail industriel, etc. Donc l'ergonomie, on peut en faire sur tous ces terrains-là. Évidemment, les pratiques après sont très différentes selon les terrains que l'on occupe, quoi. Mais il y a des formes de pratiques de l'ergonomie qui sont très très liées à l'adaptation physique des postes de travail. D'ailleurs, quand je disais que j'étais ergonome, on me disait « Ah ouais, t'es ergothérapeute ». Je dis « Non, pas du tout, je suis pas ergothérapeute. Moi, quand je fais de l'ergonomie, je m'intéresse essentiellement aux organisations du travail. Même si j'y entre par le biais des conditions physiques de travail, en fait, au bout du bout, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller sur les organisations. Parce que les organisations, à la fois, elles sont souvent très contraignantes. Et dans des systèmes où les gens sont enfermés dans des organisations dures, eh bien, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les marges de manœuvre pour adapter eux-mêmes leur poste de travail, leurs conditions de travail. Alors que dans des organisations qui reconnaissent à l'être humain des capacités d'agir, eh bien, les conditions matérielles de travail peuvent être par l'opérateur ou l'opératrice modulées, modifiées au fil de l'eau en fonction de ses propres ressentis. Et donc, l'ergonomie, on peut l'aborder sous l'angle des conditions matérielles de travail, mais c'est une forme d'ergonomie qui, à mon avis, est assez étriquée. Moi, j'avais, de par la formation que j'ai eue, et surtout de par les professeurs que j'ai rencontrés, notamment à Paris et à Toulouse, plutôt cette vision de l'ergonomie qui était de concevoir des systèmes de travail, donc des organisations et des environnements, c'est-à-dire le système au sens très large, qui permettent aux opérateurs, aux opératrices, eh bien, de réaliser leurs tâches en étant en capacité, disons, d'adapter leurs modes opératoires et d'adapter leurs outils de travail à ce qu'ils sont et disons, à la finalité de leur action. Je ne sais pas si c'est explicite, mais bon, l'ergonomie, c'est un peu, ça peut être, disons, une boîte où on met plein de choses et parfois on a des visions un peu fausses ou étriquées quoi, de ce que peut être ce métier.
Alors justement, si on se réfère à la situation qu'on a vue tout à l'heure, le premier point, ça a été déjà de voir le matériel mis à disposition et l'impact que ça a sur l'activité de travail. Les échanges entre elles, les stratégies qui sont développées ont été importants aussi. Et puis également, le fait de montrer que les formations gestes et postures apportent un plus, mais ne sont pas du tout suffisantes.
C'est différent de la formation technique que vous aviez pu avoir d'abord aux ARPE, puis à l'école technique, j'imagine.
Absolument. Et donc j'ai pu bénéficier eh bien, de disponibilité pour aller à Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne, suivre dans le cadre de la formation permanente, suivre sur la base de mes acquis de professionnel, en fait suivre des formations en ergonomie. Donc j'ai passé des diplômes de troisième cycle en ergonomie et écologie humaine. J'ai également suivi des cycles de formation à Toulouse, le Mirail, donc où il y avait aussi un département ergonomie. Voilà. Et puis de nombreux stages, de nombreux séminaires en épidémiologie, etc., qui m'ont permis d'acquérir des qualifications et surtout d'être, on peut le dire même en France, un des premiers ergonomes de terrain et formé, disons, avec une expérience professionnelle de terrain. Et donc ça, effectivement, ça m'a ouvert un certain nombre de portes, mais surtout, ça m'a, j'étais en situation de pouvoir exercer mon métier d'ergonome dans un cadre qui était fantastique, puisque à la DCN, en fait, il y a tous les métiers, et c'est dans une dimension qui est assez extraordinaire, quoi. Quand même, 10 000 personnes à l'époque, répartis sur, je crois que c'est l'arsenal principal, c'est 13 km de quai, plus des établissements à Lille-Longue, plus des établissements à la Pyrotechnie Saint-Nicolas. Et donc j'ai vraiment eu l'occasion de travailler sur tous ces terrains-là et dans toutes les catégories de services, services administratifs, bureaux d'études, ateliers, chantiers de construction navale, aussi bien sur les bâtiments de surface que sur les sous-marins. Et donc voilà, une expérience, je crois, assez diversifiée et sans doute assez exceptionnelle peut-être, en tout cas particulière.
How many the Schnee made a ladle of ice. Then spoke a spirit, if you would win your lady love, there's only one way.
En fait, mon entrée dans le métier, si je puis dire, coïncide avec vraiment le. Alors, pas les balbutiements de l'informatique, mais en tout cas, l'invasion assez massive de l'informatique dans tous les services et notamment dans les bureaux d'études. Et donc, avec toutes les interrogations qui pouvait y avoir à l'époque sur le travail sur écran, par exemple, sur les procédures informatiques, sur l'aménagement des espaces, des bureaux. Donc ça a été vraiment un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, tant dans les services administratifs que dans les bureaux d'études. Donc comment introduire par exemple la conception assistée par ordinateur dans des bureaux d'études qui jusque-là travaillaient sur une planche à dessin avec papier-crayon essentiellement. Et puis, bon, parallèlement, alors là, on est plus dans le quelque chose de classique au niveau des conditions de travail dans un arsenal. C'était tout ce qui était de travail dans les formes de radoub, sur les bateaux en construction ou dans les ateliers de préfabrication.
Bonsoir et bienvenue depuis nos studios de France 3 à Brest, où nous sommes en direct. L'événement dans l'Ouest ce samedi, la mise à flot du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. À Brest, il y a un petit peu plus de 2 heures maintenant, le président de la République, François Mitterrand, et le Premier ministre, Édouard Balladur, ont assisté à cet événement en présence de 4000 invités. La mise à flot du Charles de Gaulle marque la fin des travaux de construction de la coque. Le Charles de Gaulle sera mis en service en 1999. Il faut donc encore 5 ans pour terminer l'équipement complet du bâtiment et armer le navire. Au cours de cette édition spéciale diffusée sur la Bretagne, et les Pays de Loire, donc nous allons revenir sur le lancement du programme du Charles de Gaulle. La construction du Charles de Gaulle donc a commencé il y a 6 ans maintenant à l'arsenal de Brest. Depuis le début du chantier, les travaux ont parfois subi des retards au rythme des choix budgétaires des différents ministres de la Défense. Le porte-avions représente par ailleurs des millions d'heures de travail pour la DCN de Brest. Fange Brodigue.
Ça a été le clou de mon... j'interprète ça comme le clou, l'apogée de ma carrière. Et ça a été le pilotage de l'aspect ergonomique d'une opération très très particulière dans la construction de Charles de Gaulle. C'était l'embarquement et le soudage des deux enceintes de confinement des chaufferies nucléaires. C'est-à-dire les chaufferies nucléaires, les enceintes de confinement, c'est deux énormes marmites de 800 tonnes qui ont été construites au chantier d'Indrette, donc près de Nantes, transportés par barge jusqu'à Brest et embarqués à l'aide d'une grue venue des pays du Nord à bord du porte-avions pour être déposés sur les fonds du porte-avions et soudés, donc solidarisés du porte-avions. Et cette opération de soudage, elle était extrêmement importante parce que d'abord, il fallait que techniquement, elle soit parfaite. Évidemment, on est dans le nucléaire, hein, donc il n'y a pas droit à l'erreur. Et humainement, il fallait aussi qu'elle puisse être réalisée dans les meilleures conditions. Et je dois dire que c'est une opération que moi j'ai, à certains points de vue, trouvé exemplaire, parce qu'on est parti de la convergence d'intérêts entre les techniciens, les spécialistes de la technique et les spécialistes de l'opérateur humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit... Pour que ça soit réussi techniquement, il faut aussi que les gens y soient bien et qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions. Et donc j'ai eu l'opportunité là vraiment de travailler avec un ingénieur chargé, puisque c'était l'appellation, ingénieur chargé de l'opération qui qui s'appelait Thierry Roland, c'est un nom qu'on n'invente pas, donc s'il entendait l'émission, il se reconnaîtrait, et qui justement a favorisé cette coopération assez exceptionnelle entre les conditions de travail et les conditions techniques de réalisation. On n'en a pas fait deux, c'est arrivé qu'une fois dans la vie de l'arsenal de Brest. Le soudage d'enceintes de confinement, de chaufferie nucléaire. Pour le moment, il n'y en a pas eu d'autres et il n'y en aura pas avant longtemps, je pense, peut-être jamais. On est intervenu, quand je dis on, c'est il y avait également des gens du service de médecine du travail qui travaillaient avec moi sur cette opération, des médecins du travail, des infirmières également qui sont intervenus et des gens du service hygiène-sécurité. On est intervenu très en amont parce qu'on a préparé cette opération en essayant de simuler l'environnement dans lequel les gens allaient devoir travailler. Les conditions étaient vraiment très très particulières. Pour rapidement expliquer ce qu'était cette opération, les chaufferies nucléaires sont des grosses marmites qui sont posées à plat sur le fond du bateau et soudées. Elles sont constituées d'un métal particulier dont le soudage nécessite qu'il y ait un préchauffage. C'est-à-dire qu'à l'endroit du joint de soudure entre l'enceinte de confinement et le fond du bateau, la température doit être portée à 120 degrés de mémoire. Mais pour porter la température à 120 degrés à cet endroit-là de la soudure, il fallait mettre des résistances électriques plus haut, parce que les résistances électriques devaient évidemment être décalées par rapport au joint de soudure. Et donc porter le métal à 200 degrés de température. Tout ça dans un environnement qui était un environnement exigu, contraint, même très exigu, puisque les gens y accédaient en rampant, et donc avec des températures d'ambiance qui devenaient difficiles à supporter. Donc tout le travail a été d'essayer d'imaginer, avant même que les enceintes de confinement n'arrivent, quel allait être cet environnement-là, comment les gens pourraient s'acquitter de leur travail dans des conditions extrêmes comme ça. Et donc on a réalisé des maquettes. Dans un atelier, à l'atelier des bâtiments en fer, on a réalisé des maquettes dans lesquelles on a fait intervenir des gens et on a essayé de vérifier leurs paramètres physiologiques, fréquence cardiaque, température, etc., pour voir dans quelles conditions on pouvait s'autoriser à les faire travailler. Et après, donc, les enceintes de confinement étant arrivées, embarquées à bord, eh bien, on a suivi toute l'opération de soudage, on a organisé aussi la rotation des équipes de manière à ce que le temps de travail dans ces conditions un peu extrêmes soit supportable et également organiser un peu l'environnement pour que les périodes de repos des soudeurs puissent se faire dans des conditions satisfaisantes. Donc il y a eu tout un travail préalable, simulation, maquette en grandeur, pas grandeur nature mais quasiment, et puis ensuite suivi de l'opération et mise en œuvre. Donc l'opération de soudage en elle-même, elle a dû durer au total plus d'un mois, puisque 15 jours par enceinte de confinement. En règle générale, on intervenait plutôt dans des situations de travail qui préexistaient, c'est-à-dire que là, la situation de travail, on savait qu'elle allait exister, mais on ne pouvait pas la visualiser, puisque on le fait une fois, après c'est fini. Avant ça n'existe pas, après c'est fini. Donc il était quasiment nécessaire de passer par cette phase de maquettage et de simulation pour pouvoir anticiper sur les conditions de travail. Mais dans les interventions ordinaires, par exemple, on intervenait, j'ai eu l'occasion de mener des études assez importantes sur les phases de montage de la coque des bateaux dans les formes de radoub, dans les bassins de construction. Là, c'est des situations de travail qu'on connaissait, qui existaient, qui se renouvelaient, qui se répétaient. Donc là, on intervenait sur place et on allait essayer, sur des situations existantes, de faire un certain nombre de diagnostics et de faire des propositions d'amélioration. On n'était pas on était moins dans l'accompagnement que dans le diagnostic et des propositions d'amélioration.
Et est-ce que vous pensez du coup que entre le moment où vous commencez votre métier d'ergonome au sein du service hygiène-sécurité et le moment où vous partez, est-ce que vous pensez que les conditions de travail à l'Arsenal se sont améliorées?
Alors, oui, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que je pense que si on regarde les choses sous l'angle, par exemple, de la pénibilité, etc., indubitablement, les conditions de travail se sont améliorées. On n'acceptait plus de faire travailler les gens dans n'importe quelles conditions. Il y avait un véritable contrôle autour des ambiances physiques de travail, etc. Donc, sur la protection de la santé des personnels, indubitablement, ça s'est amélioré. Après, on sait aussi que l'évolution quand même des modes de production, et c'est pas spécifique à l'Arsenal depuis un certain nombre d'années, ont quand même été sur une plus grande division du travail, une sectorisation qui, à mon sens, n'est pas forcément de nature à rendre le travail plus agréable, plus intéressant, etc. Donc, je dirais que je ferais un bilan assez mitigé, quoi, parce que la spécialisation, l'hyperspécialisation, la division du travail, souvent n'est pas, disons, très bien acceptée, n'est pas, ça valorise pas, quoi. Mais par contre, sur les aspects protection de la santé au travail, je pense que quand même, entre mon entrée à l'Arsenal et puis les périodes où je suis sorti, oui, ça s'était bien amélioré. Et puis, il y avait des systèmes de contrôle quand même, via les instances représentatives des personnels qui s'étaient bien développés. Il y avait aussi des services qui s'étaient étoffés, notamment par exemple le service hygiène et sécurité. Et puis, la réglementation aussi avait beaucoup évolué. Donc de ce point de vue-là, c'est indubitable, ça s'est amélioré. Après, je serais plus mitigé sur les aspects intérêt du travail. Peut-être que là-dessus, nos sociétés modernes ne sont pas... on n'a rien à envier à nos anciens, quoi. Parce que... Je pense qu'avant, les gens étaient aussi, s'investissaient beaucoup dans le travail et sans doute qu'ils avaient un travail qui était plus diversifié, plus riche. Mais bon, c'est compliqué de le dire, d'avoir une vision générale là-dessus. Voilà, oui, c'est une question piège, hein, pour finir.
La grande maison. Une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, il y a tout ça en raccourci.